mois à 11 ans. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain, c'est à 17h heure de Washington. 20...
Bonsoir à toutes et à tous. Élisée Rumpati devant ce micro. Bienvenue sur Sporama, votre émission sportive hebdomadaire sur la voie de l'Amérique. Ce soir, on parlera du Comité international olympique qui a reporté à 2026 les Jeux de la jeunesse avec le maintien du Sénégal comme pays hôte. En Côte d'Ivoire, élection à la Fédération de football. Les dés sont pipés pour Didier Drogba. L'ancien capitaine des éléphants n'a pas obtenu le parrainage nécessaire pour se lancer dans la course. Et pour en parler, on retrouve comme d'habitude nos consultants en direct de Columbus dans l'Ohio. Nous avons Amédine ici. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les docteurs de l'avion en fait.
Valdo Simbo Yamba Yamba nous rejoint depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Nous retrouvons Amine Birouk à Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis, dans ce studio avec moi, Lawal Dinkosubo. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir.
Bienvenue à tous. Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse, un événement sportif réservé aux athlètes âgés de 15 à 18 ans, auront lieu en 2026 plutôt qu'en 2022. Le report conjointement décidé par le Sénégal et le CIO a été approuvé par la commission exécutive et a été soumis pour ratification à la session du Comité international olympique. Précision à Dakar, Seydina Abagaye.
Si le report a été très vite acté et accepté par le monde sportif, le choix de 2026 était incompréhensible pour certains. C'est donc la première équivoque que le président du comité d'organisation a levé, Mamadou Diagne Ndiaye, justifie ce report de 4 ans par rapport à la date initiale.
La seule plage qui était disponible, c'était 2026. Comme vous le savez, 2021, c'est les Jeux d'été à Tokyo. 2024, c'est Paris. 2026, c'est Dakar. C'était la seule date disponible. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit tout naturellement dans l'agenda olympique et qui n'a pas d'impact sur le rythme des préparations. Nous n'étions pas encore une fois en retard.
Cette décision est certes dictée par l'impact de la COVID-19, mais il montre également le pragmatisme des autorités. C'est l'avis de Soham El-Wardini, maire de Dakar, qui renouvelle l'engagement de la municipalité.
Le report décidé par le Comité international olympique, de concert avec les autorités sénégalaises, est bien la preuve, s'il était encore nécessaire de la démontrer, que le Sénégal et son président, son excellence, M. Macky Sall, mais aussi le CIO, savent agir avec lucidité et responsabilité quand les circonstances l'exigent. Nos équipes resteront mobilisées jusqu'en 2026 et l'engagement de la ville n'en sera que plus grand pour des jeux pour les jeunes, par les jeunes et avec les jeunes.
Les jeunes sont justement les plus impactés par ce report car le vivier ciblé pour 2022 est rattrapé par la limite d'âge. Et pour ne pas léser ces derniers, le ministre des Sports compte sur les fédérations nationales et les partenaires.
Les fédérations continuent le travail parce que les fédérations sont là pour faire de la promotion, faire de la détection, encadrer les jeunes, bien évidemment appuyé par le comité olympique qui ne cesse de donner des bourses aux meilleurs. Donc ce travail ne va pas s'arrêter. Au contraire, il faut l'intensifier. Il faut se dire qu'on a une échéance, ça peut être 2022, pour ne pas relâcher et continuer le travail qu'il faut. Non seulement on va encadrer ces jeunes-là, mais on va détecter d'autres qui pourront faire plus que ce qu'on pense de ces jeunes.
Le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar compte aussi mettre à profit ce report pour renforcer et améliorer l'offre que le Sénégal avait proposée au CIO. Parallèlement, des partenaires comme la France, le Japon et l'Espagne se sont déjà engagés à accompagner le Sénégal pour la réussite du premier événement olympique sur le continent africain. Désormais, le cap est pour 2026. À Dakar, Seydina Abagaye pour VOA Afrique.
Amédine, si le report à 2026 n'est-il pas une déception pour le Sénégal?
Déception? Non, Élisée. Au contraire, je pense que les responsables du sport sénégalais ont poussé au ouf de soulagement après ce report, car le Sénégal n'était pas du tout prêt pour accueillir ces Jeux de la jeunesse de 2022. Je pense que le président Macky Sall a bien fait de demander ce report, puisque rien du tout n'a été fait depuis l'annonce quand même de l'organisation de ces premiers Jeux en Afrique, puisque le Sénégal a été désigné en septembre 2018, mais ça c'est que depuis lors, rien n'a bougé, rien à part la pose de la première pierre du stade olympique qui se trouve à Diamniadio, mais depuis la pose de la première pierre, rien n'a été fait. Les infrastructures sportives constituent le parent pauvre quand même du sport sénégalais, donc même sur le plan de la préparation, rien n'a été fait aussi. Donc c'est une sorte de bruit de sauvetage hein, pour les responsables du sport sénégalais. C'est vrai que j'ai entendu le président Diagne Ndiaye dire que ce n'est pas parce que le Sénégal n'était pas encore prêt, le Sénégal n'est pas encore en retard. Non, je dis que c'est faux. Le Sénégal n'est pas prêt pour accueillir ces jeux. Donc le report est bénéfique pour le sport sénégalais. Maintenant, on va accueillir ces jeux en 2026. Faisons en sorte d'être prêt en 2026, puisque c'est pour la première fois qu'un pays africain va accueillir ces Jeux olympiques de la jeunesse. Donc au niveau du Sénégal, il faut cravacher dur pour ne pas être en retard pour cette fois-ci.
Amine Birouk, ce report ne s'assimile-t-il pas à un sacrifice de génération des 15 et 18 ans de 2022 et 2024?
Tout à fait, Lisé, mais il faut juste rappeler que la crise du Covid-19 a totalement chamboulé le calendrier olympique et surtout les priorités du CIO. Il faut préciser qu'avec la tenue des Jeux de Tokyo, des Jeux olympiques d'hiver 2022, des Jeux de Paris 2024, insérer les Jeux olympiques de la jeunesse en 2022 aurait supposé un plus lourd fardeau financier. Et aujourd'hui, alors qu'on se dirige vers les Jeux plus vertueux, plus ramassé du côté de Tokyo dans moins d'une année, il n'était pas possible également d'avoir cette échéance. L'essentiel, c'est qu'il va falloir sacrifier peut-être cette génération, c'est dommage, faire en sorte que ces jeunes-là puissent se rattraper dans les échéances olympiques supérieures, et l'essentiel est préservé pour Dakar, puisque suite à la communication téléphonique entre le président sénégalais et le président du CIO, l'organisation de Dakar n'est que décalée. Donc rendez-vous en 2026 chez nous en terre africaine.
Écoutez Sporama, l'émission qui parle de sport tous les lundis sur la Voix de l'Amérique. Décidément, à la Fédération Ivoirienne de Football, les dés semblent jetés pour Drogba. L'ancien capitaine des éléphants n'a pas réussi à avoir les parrainages nécessaires. Ne va-t-on pas faire un duel entre Souri Diabaté et Idriss Diallo le 5 septembre prochain? Une situation qui divise les acteurs du milieu footballistique ivoirien. Depuis Bouaké, la correspondante de Siriki Barreau.
Didier Drogba devra encore patienter 4 ans pour espérer réaliser son rêve, celui d'accéder au poste de président de la Fédération Ivoirienne de Football. L'ex-international ivoirien n'a recueilli le parrainage d'aucun des 5 groupes d'influence pour soutenir sa candidature, même pas celle de l'Association des footballeurs ivoiriens. Une association dont il est le 2e vice-président. Une situation que certains de ses partenaires en sélection nationale, à l'image des frères Kolo et Blaise Kwasi, ont du mal à comprendre. Sur la question de son avenir, l'homme ne s'est pas encore prononcé. Mais selon Pierre Effèze, journaliste proche de Didier Drogba, rien n'est moins sûr.
Tout est fait des négociations, mais pour l'heure, je n'ai pas le sentiment qu'il soit prêt à s'aligner derrière un candidat. Ce dont j'en suis sûr, c'est que Didier Drogba, il optera pour le candidat qui fera changer les choses, non pour un candidat qui viendra faire du surplace.
Dans le camp de Idriss Diallo, l'heure est à la sérénité. C'est d'ailleurs lui qui a récolté le parrainage de l'Association des footballeurs ivoiriens. Il est soutenu par des anciennes gloires du ballon rond, dont Cyril Domoro et Bonaventure Kalou. Pour Abdoul Capot, journaliste aux côtés du candidat Idriss Diallo, le parrainage de l'Association des footballeurs ivoiriens à son candidat a été obtenu de manière démocratique.
Le bureau de l'AFI a d'abord pris langue avec les différents délégués qui sont au nombre de 38. Les différents délégués ont voté. Idriss Diallo est arrivé en tête avec 25 voix, Didier Drogba avec 13 voix. Au niveau du board, au niveau du bureau, M. Idriss Diallo a encore battu Drogba, 3 voix contre 2. Donc c'est un parrainage qui a été fait dans les règles de l'art. Et Didier Drogba, il a perdu. Il doit prendre la citation avec Fair Play, lui qui a été un si grand joueur.
Le président de la Ligue, Souri Diabaté, fait aujourd'hui office de favori. Il a le soutien de 3 des 5 groupes d'influence, à savoir l'Association des anciens joueurs, l'Amicale des arbitres et l'Amicale des médecins. Les élections à la tête de la FIS se joueront donc sans Didier Drogba. L'élection du 5 septembre prochain opposera Souri Diabaté à Idriss Diallo, deux hommes qui se connaissent parfaitement. Siriki Barreau, Bouaké, pour VOA Afrique.
Lawal, Dine, Kossouro, Droba n'est pas au bout de ses peines. Il n'a même pas fait l'unanimité au niveau de ses anciens coéquipiers.
C'est quand même triste et déplorable pour la Côte d'Ivoire que cette situation continue de perdurer. On a senti ça, la guerre entre joueurs, la guerre des clans entre les joueurs de la sélection en Côte d'Ivoire, ça a duré des années et ça continue en dehors des terrains. C'est quand même déplorable parce que Drogba, on sait ce qu'il a fait pour le foot africain, pour la Côte d'Ivoire également, mais ce qu'on lui reproche, qu'il n'était pas aux côtés des acteurs du foot à l'interne. Drogba, excusez que je le dise comme ça, ne maîtrise pas assez les rouages du foot ivoirien. Il connaît le foot ivoirien, mais il ne maîtrise pas les rouages.
Il faut connaître forcément les rouages avant d'être président.
Mais vous voulez diriger quelque chose que vous ne maîtrisez pas assez. C'est compliqué. Maintenant, au-delà de cette guerre entre clans, des éléphants entre-temps, moi je vois un peu plus loin. Quand Didier Drogba, pas extraordinaire, s'il avait obtenu les parrainages nécessaires, est-ce qu'il pourra véritablement faire le poids devant tous ceux-là qui sont restés dans le système pendant longtemps, qui maîtrisent le système? C'est là aussi l'autre question. Mais l'un dans l'autre, le foot ivoirien aura perdu quelque chose. Maintenant, on l'a recalé. Il n'a qu'à continuer, il n'a qu'à aller se faire former pour être entraîneur de Chelsea parce qu'entre-temps, on avait Laurier de ce côté-là.
Non seulement, il pouvait s'aligner aussi derrière un candidat, puisque selon les dernières infos, il va s'aligner derrière Idriss Diallo.
Il s'aligne derrière Idriss Diallo. Ça lui permettra de maîtriser maintenant le système, d'entrer dans le système, de maîtriser le système, quitte à rebondir dans quelques années. Mais pour l'heure, il est recalé. Il a intérêt à maintenant s'intéresser au foot ivoirien de l'intérieur.
Ahmedine Sy, le parrainage a eu raison de Didier Drogba. Est-ce parce qu'il n'est pas aimé ou d'autres raisons sont à prospecter?
C'est vrai, Élisée, les carottes sont cuites pour Didier Drogba qui ne sera pas candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. C'est vraiment dommage puisque Drogba est une icône du football ivoirien, mais également une icône du football africain. Je trouve cela même aberrant de ne pas voir Didier Drogba se présenter à la tête de la Fédération ivoirienne de football pour une histoire de parrainage. Nous sommes en sport, pas en politique. Didier Drogba n'a pas besoin de parrainage pour être candidat à la Fédération ivoirienne de football. C'est vraiment dommage car je peux comprendre un groupement comme les médecins, mais l'association des footballeurs ne pas porter la candidature de Didier Drogba, c'est vraiment aberrant. Maintenant, comme le vin est tiré, il faut le boire. On va vers un duel entre Diabaté et Diallo, mais je trouve cela aberrant. Ça me choque, Élisée, de ne pas voir Didier Drogba se présenter pour devenir président de la Fédération ivoirienne de football.
Amine Birouk, Ezik Drogba place à deux gros cylindrés du foot ivoirien. Un choc de titans en perspective.
Ça doit laisser certainement beaucoup de regrets à certains supporters en Côte d'Ivoire parce que voir Didier Drogba propulsé en tant que président de la fédération, ça aurait pu permettre de redonner un second souffle à toute la logistique et à toute la gouvernance du football ivoirien. Maintenant, on se dirige vers ce duel entre ces deux titans, ces deux cadors qui sont bien installés dans les rouages footballistiques du pays. Ce sera celui qui aura réussi à réunir le plus de suffrages qui sera élu. Espérons juste qu'il pourra permettre au football ivoirien de sortir de l'ornière, car si la sélection arrive plus ou moins à tirer son épingle du jeu, à se qualifier pour la CAN. Il faudrait qu'elle fasse beaucoup mieux. Depuis 2017, elle est en perte de vitesse. Il faudrait peut-être penser à remettre sur les bons rails les clubs qui n'arrivent plus à briller dans les compétitions africaines. D'où peut-être une restructuration du championnat national, des championnats des jeunes, pour permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver son rang d'antan.
Valdo, Sori Diabaté étant le favori naturel, mais avec l'alignement d'Idriss Diallo, la compétition qu'on croyait pliée sera enfin assez rude.
Drogba out, ça va donc se jouer entre les deux vice-présidents du comité sortant et ça s'annonce très rude. Cette course pour les fauteuils présidentiels de la Fédération ivoirienne de football, s'il faut couper à part égale les votes des clubs, Sori Diabaté part avec la faveur des pronostics par le simple fait qu'il a réussi à valider sa candidature avec trois groupements, tandis que les vice-présidents en charge de la communication et marketing, Idriss Diallo, n'en compte que deux sur base de ces éléments. Il est facile de comprendre que cette hypothèse ne lui est donc pas favorable, ce qui nous laisse croire que cette bataille va se jouer au niveau des clubs, sachant que tous n'ont pas le même poids au vote. Chacun devra donc mettre en avant-plan son savoir-faire et sa capacité à séduire les 133 électeurs et mériter ainsi leur confiance. Tout compte fait, il n'y a qu'une place réservée à celui qui sera élu, aux électeurs, de faire les bons choix qui devra en principe leur épargner des remords pour avoir écarté de la course Didier Drogba.
On enchaîne avec les compétitions des clubs de la CAF. Après le refus du Cameroun d'abriter le Final Four de la Ligue des Champions, sur place à Yaoundé, les avis sont partagés. Emmanuel Juntap a recueilli les avis de quelques confrères.
J'ai pas été surpris par cette décision. J'ai pas trop bien compris la volonté affichée des uns et des autres à prendre cette décision.
Cette décision me surprend.
Et réactions de journalistes sportifs camerounais qui traduisent le flou persistant. Après la décision du gouvernement camerounais de ne plus abriter les trois derniers matchs de la Champions League africaine au stade de Chapoma, Joseph Valéry Foto est le chef de service des sports à Radio Sianto.
À l'entame, il s'agissait de la finale de la Champions League. Ce cahier des charges a été revu à la hausse, incluant encore beaucoup de conditions à remplir qui, de mon goût, ne pouvaient pas permettre au Cameroun de véritablement se montrer.
Officiellement, le gouvernement dit préserver la population d'une éventuelle contamination du Covid-19. Le pays affiche pourtant l'un des meilleurs taux de guérison en Afrique. Des raisons politiques peuvent donc avoir motivé la décision de ne plus jouer la Final Four au Cameroun. Surtout que le stade de Chapoma devait être inauguré à l'occasion par le président Biya. Eric Kwam, journaliste sportif à Royal FM à Yaoundé.
On s'est endetté pour construire ce stade. Jouer un match là-bas d'inauguration sans spectateurs, ça ne donne pas un éclat vraiment vendable et ça ne vend pas le Cameroun.
L'organisation de ce mini-tournoi a aussi fait naître de gros appétits financiers que le gouvernement n'a pas validés. Thierry Ndo, journaliste sportif à Sky One Radio à Yaoundé.
On dit que c'est le gouvernement du Cameroun qui a pris la décision, mais on a clairement le sentiment que cette décision a été prise parce que derrière d'autres raisons sous-jacentes, notamment on parle des gros intérêts financiers qui avaient été mis devant. On parlait d'une compétition, d'une organisation d'un coût d'environ 150 à 200 millions de francs CFA pour 3 matchs à Douala, ce qui est quand même surréaliste par ces temps qui coûtent.
Entre programmation, reprogrammation, glissement de date ou encore annulation pure et simple de compétition, la CAF et le Cameroun ne parviennent décidément plus à s'entendre. Les journalistes sportifs du Cameroun redoutent que leur pays sorte perdant de ces atermoiements.
Le Cameroun devrait plutôt se concentrer sur ce qui reste à faire. Le stade de l'Embé n'est pas fini. Il y a les voiries à finir dans les sites et à Garoua également qui posent des soucis. Empêcher à la CAF d'avoir un élément, parce que je dis le plus petit des éléments négatifs va amener le comité exécutif de la CAF à prendre une décision qui pourrait encore être fatale.
La CAF dit, vous aviez indiqué que vous ne pouvez pas habiter le Final Four de la Champions League africaine de football. En conclusion, vous ne pouvez pas abriter le CHAN qui va regrouper 16 pays. Vous ne pouvez donc pas abriter aussi la CAN qui va abriter 24 pays. Tout est possible avec la CAF qui nous a tendu des pièges depuis 2019.
Les relations seront ce qu'elles seront si le gouvernement du Cameroun et surtout la FECAFOOT qui est quand même le pendant au sein de la CAF accepte et décide enfin de sortir de cette torpeur-là.
Le CHAN 2021 et la Coupe d'Afrique des Nations 2022 sont déjà sous l'œil de viseur.
Valdo, on revient à vous. Coup dur ou opportunité de mieux préparer le CHAN en 2021 ou la CAN en 2022?
Élisée, le refus du Cameroun d'accueillir cette finale forte de la Ligue des Champions de la CAF a en effet pas du pays des lions indomptables, en moins que rien en termes de capacité d'accueil. Mais seulement, nous sommes pendant une période très compliquée. La gestion d'avant, pendant et après un match de football doit avoir une garantie optimale dans sa prise en charge en cette période de Covid-19. D'une part, je suis tenté de dire que cette finale devrait servir de répétition générale avant les CHAN prévus en janvier 2021 et de l'autre, il se peut que sanitairement, le pays n'a pas encore réuni les moyens nécessaires pour une telle épreuve, raison pour laquelle il refuse de s'exposer. Il est vrai que pour la CAN 2022, les CHAN 2021 va baliser les chemins et mettra sans nul doute à nu le potentiel camerounais d'accueillir la grande masse du football africain. Je pense que le Cameroun est resté plutôt prudent et ne veut prendre le risque de s'exposer qu'une et une seule fois et non deux avant la CAN 2022.
À Médine, le coronavirus fait courir tout le monde sportif. Comme quoi, à situation exceptionnelle, calendrier exceptionnel.
Tout à fait, Élisée. Situation exceptionnelle, calendrier exceptionnel. Je vous l'avais dit, je comprends les responsables du football camerounais. Hein. Ils ont raison de ne pas accepter d'accueillir cette compétition puisque la situation de la pandémie est très loin d'être maîtrisée au niveau de leur pays. Et puis, il y a l'aspect sportif. Aucun club camerounais n'est intéressé par cette compétition. Pourquoi prendre un risque en organisant cette compétition? Non, je ne pense pas. Maintenant, comme le Cameroun a refusé, la CAF va trouver un autre pays qui va l'accueillir et je pense que ça va bien se passer. Mais encore une fois, comme la pandémie n'est pas maîtrisée, ce sera très difficile d'organiser des compétitions. Mais comme disent les Anglais, wait and see, Élisée.
Lawal Dean Kosuro, le désistement du Cameroun ne va-t-il pas impacter l'organisation du CHAN et de la CAN dans ce pays quand on se rappelle de 2019?
2019 pour le Cameroun, c'était un épisode malheureux. Il faut oublier ça au plus vite. Et quand on se rappelle la dernière CAN au Cameroun, ça fait des décennies en arrière. Donc le Cameroun a
1972.
Le Cameroun a besoin de ces événements-là pour se repositionner. Mais les Camerounais ont ceci de particulier. Au plan de l'organisation, il y a toujours de petits soucis, de petits problèmes internes qui minent tout ce qu'ils entreprennent. Voyez un peu les lieux indomptables. Chaque fois qu'on doit aller à une compétition, s'il n'y a pas problème de prime, c'est problème de ci, c'est problème de ça. Et si on n'arrive pas à mettre de côté tout ça, le Cameroun, je ne leur souhaite pas ça. En tout cas, le CHAN va avoir des difficultés à pouvoir tenir au Cameroun.
Mais encore que c'est dans 6 mois.
Dans 6 mois. Et les stades ne sont pas encore complètement terminés. Mais pour la CAN, on a besoin de mieux. Est-ce que le Cameroun est prêt pour abriter la CAN avec les travaux qui traînent? Mais la commission de la CAF va forcément déposer son bilan à un moment donné pour confirmer ou infirmer cette organisation. Mais on espère que les Camerounais vont tout faire pour ne pas se faire encore chipper la CAN 2022. S'ils ne le font pas et qu'on leur chippe encore cette CAN-là, ça va être compliqué. Et ils n'auront qu'à s'apprendre à eux-mêmes parce qu'on leur a donné toutes les opportunités. 2021, c'était pas évident que ce soit prêt. Covid aidant,
passé par là.
On a reporté ça en 2022. Donc, on a donné tout le temps aux Camerounais de se préparer pour cette CAN-là. Déjà que 2 ans durant, on n'a pas pu se préparer comme il se doit. Les Camerounais, on vous attend en tout cas au Carrefour.
On se rend au Gabon pour finir cette émission. La Fédération de football a arrêté définitivement les compétitions suspendues depuis mars dernier à cause de la pandémie de coronavirus. Reportage Féo Afrique à Libreville, Ismaël Obiang Nzé.
Selon Berlek Lekoba, fin observateur du football national, cette décision restait l'unique option pour éviter le ridicule. Sa position rejoint celle des experts qui planchaient sur le dossier du championnat de football de première et deuxième division impacté par la crise du Covid-19. Leur rapport présenté à la Fédération gabonaise de football et rendu public jeudi dernier indique clairement que les conditions ne sont nullement réunies pour espérer voir le ballon rond à nouveau sur les pelouses. D'où la recommandation de la FIGAFOOT de provoquer un arrêt définitif de la saison 2019-2020. Conséquence, il n'y aura pas de montée ni de descente pour cette saison qui reste néanmoins validée. La FIGAFOOT ajoute au nombre de décisions prises dans ce contexte particulier que les clubs en tête de poule lors de l'arrêt du championnat national de football de première division, à savoir Manga Sport et Bangui Sport, représenteront le pays en Coupe de la CAF et en Ligue des Champions. Libreville, Ismaël Obianzé pour VO Afrique.
Valdo, à peine démarré, le championnat gabonais a été suspendu pour cause de Covid-19. Mais à la surprise générale, la fédération désigne un champion.
Élisée, suspendre le championnat pour raison de Covid-19 est une option. Désigner un champion en est une autre. Mais sur base de quels critères? Je pense que c'est à cette question qu'il faudra répondre pour mieux cerner cette décision de la Fédération gabonaise de football. Je crois que cette fédération a des bonnes raisons pour en arriver à cette décision de désigner un champion. C'est peut-être la décision qui a mis tout le monde, tous les clubs gabonais d'accord, un peu comme en République démocratique du Congo. Les 4 premiers, au moment de l'arrêt du championnat, sont qualifiés d'office pour les interclubs de la Confédération africaine de football et le tout-puissant Mazembe, prévu en cette période à remporter naturellement les championnats.
Et s'il en est ainsi, bon, c'est une décision. Il fallait bien se décider pour ne serait-ce qu'aligner les clubs au niveau des interclubs de la CAF au lieu de faire recours à ce qui a été la saison dernière.
Lawal, c'est quand même extraordinaire. Il y a 4 ans que la balle n'a plus roulé sur le terrain dans ce pays. Comment cela pourrait-il s'expliquer?
C'est pas seulement extraordinaire, c'est inouï. Les Gabonais nous ont surpris. D'abord, on a arrêté le championnat pendant 4 années. Parce que les petits intérêts qu'on doit tirer à gauche et à droite ne nous permettent pas de voir plus loin que le bout de notre nez.
C'est ça. Comme ce championnat qui a démarré en février, arrêté en mars pour cause de coronavirus. Et là, on
devient champion, un vice-champion. Les Gabonais ont le secret de ce qu'ils sont en train de faire. Mais la suite, c'est ça qui nous intéresse.
Merci Lawal.